puisqu'on a été dans une journée en partie plurilingue, last but not least, la dernière table ronde de notre riche et dense journée sur Nabokov et la France. Nous avons le plaisir d'accueillir pour animer cette table Paul Ajac, qui est bien sûr écrivain, mais également productrice à France Culture, qui fera la présentation et la modération de cette table, qui aura pour thème les résonances de Vladimir Nabokov dans la littérature française contemporaine, qu'on a un petit peu abordé, mais qui est quand même un thème nouveau pour la journée. Donc je laisse la parole à Paul Ajac, qui va nous présenter les différents intervenants. Bonne conférence, enfin bonne table ronde.
Merci, bonsoir, merci d'être là. Après toute cette extraordinaire nourriture substantielle sur Nabokov, encore un petit peu, pendant une heure et demie. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser plutôt à l'enchanteur Nabokov, à sa faculté d'envoûtement auprès des écrivains français, puisque nous sommes en France et que c'est la thématique. Et plus particulièrement, on ne va pas faire quelque chose d'exhaustif en recensant les émules et les filles spirituelles, mais plutôt à partir de trois livres vraiment remarquables, nous allons vous parler, ou ils vont nous parler en tout cas, de cette façon dont ils sont tombés dans le chaudron magique de Nabokov, au point d'écrire un roman qui serait nabokovien si on veut. Je voulais vous présenter Brice Mathieu-Sang. Brice Mathieu-Sang, qui est un écrivain français, mais qui est un traducteur également. Un traducteur français qui traduit du français, de l'anglais en français. De l'américain en français. Alors, Brice a traduit plus de 200 auteurs très importants et il a écrit diverses choses dans un très, très, très étrange roman qui s'appelle « Vengeance du traducteur » et qui est paru chez POL. C'est un livre à poupée russe, c'est un livre à emboîtement, à surprise, à dérobade. Et Brice va nous en parler. Je pense que c'est un livre tellement complexe. En fait, il n'y a que Nabokov qui pourrait retrouver ses petits, hein, Brice. Une autre personne complètement tombée sous le charme de Nabokov et qui nous a redonné ce charme, ô combien, avec un drôle de livre aussi, c'est pas un essai, c'est pas une fiction, c'est pas une première personne, c'est pas une tentative d'imprégnation, c'est comme une espèce de chemin entre la réalité de ce que pouvait être Nabokov et la façon dont Lila Azam Zangané l'a rêvé. Son livre s'appelle « L'Enchanteur, Nabokov et le bonheur » aux éditions de l'Olivier. Lila est une jeune femme qui vit aux États-Unis, qui est d'origine iranienne, et qui vit aux États-Unis et dont c'est le premier livre, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, ce dont je suis sûre, c'est que ces deux personnages-là sont complètement envoûtés et sous le charme irrésistible de Nabokov. En ce qui concerne Michel Schneider, qui est un écrivain, romancier, psychanalyste également, je peux le dire que vous êtes psychanalyste, Michel, hein ?
Non. Bien que Nabokov détestait voilà. Charlatan freudien.
Voilà, mais enfin, c'est pas une injure, hein. Non. Bon. Michel Schneider est aussi ce romancier. Psychanalyste peut-être qui sait écouter la voix des grands morts et leur restituer une intériorité à travers la fiction et le roman. Je pense à ce livre que vous aviez fait sur Marilyn Monroe, par exemple. Et ici, c'est un essai où Michel Schneider s'intéresse à la façon dont 36 écrivains qu'il aime seraient morts. C'est une espèce de réflexion sur la mort et Nabokov, la mort et Pascal, la mort et Flaubert. Hein, voilà. Donc, d'abord, j'aimerais demander à Lila, qui est peut-être la plus savante de nous tous, en France, ici, est-ce qu'il y a ce qu'on peut appeler des écrivains nabokoviens, illustres, par exemple. On sait, par exemple, que Duras a fait des émules, mais Nabokov, on peut dire un tel est le fils spirituel de Nabokov, Lila.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Je suis vraiment pas du tout la plus savante de loin. Je me sens au contraire la petite souris de ce très grand clan de Nabokoviens français et internationaux. Et c'est vraiment un plaisir énorme d'être ici. En France, Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est très risqué, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous considérez officiellement comme un écrivain nabokovien.
Ah, pas du tout.
Voilà, voilà. Mais je pense que c'est une opération extrêmement risquée.
Michel ?
Moi, je connais un écrivain anti-nabokovien, c'est Sartre, qui a écrit un texte extrêmement dur sur la méprise, je crois. Et être un écrivain nabokovien, c'est pas possible. Je veux dire, on peut être dans une identification à lui. Et en préparant cette soirée, j'ai écrit un texte sur mes rapports avec Nabokov et j'emploie, au lieu du mot identification, j'en prends identification. Je crois que on ne peut rejoindre Nabokov qu'avec des écrans successifs, des miroirs encastrés les uns face aux autres de fiction. Donc Nabokov aurait détesté avoir quelque chose comme des émules ou des disciples, mais il a des échos ou il a des miroirs assez pâles pour.
Je ne sais pas s'il aurait détesté. Peut-être qu'il aurait bien aimé pour les torturer un petit peu.
Pour les torturer, hein? Oui, parce que comme des lépidoptères. Oui,
voilà.
Moi, je crois qu'il y a des traducteurs nabokoviens.
C'est quoi ?
Pour moi, un traducteur nabokovien, c'est un traducteur qui est d'une sorte de méticulosité dans la chasse aux papillons du sens et dans l'épinglage. Ensuite, dans la case avec la petite vitrine en verre, qui est une bonne métaphore de la page, et dans cet épinglage absolument implacable et qui finalement tue le texte d'origine, comme Nabokov tuait les papillons. Je ne sais pas s'il les mettait dans des vitrines, sous verre, etc. Bon.
Ben oui, justement, parce que dans la lecture que vous avez écoutée tout à l'heure, si vous étiez là, il y a Mademoiselle O, qui est très grosse, malheureusement, et qui s'assoit sur une caisse avec des papillons épinglés.
Il y a
les épinglés.
Voilà,
exactement.
Il y a des traducteurs qui sont, évidemment, ce sont des obsessionnels, les traducteurs. Et ce sont des gens qui partent à la chasse en permanence du mot juste dans la langue d'arrivée qui va... Ce qui est une tâche absolument impossible, évidemment, qui est vouée d'emblée à l'échec, un peu comme la situation de beaucoup de personnages de Nabokov, d'ailleurs. Et je trouve que le traducteur est une bonne... C'est pas que je sois obsédé par la traduction en elle-même, mais je pense que cette opération-là, il y a certains traducteurs qui ont une sorte de position qui est très nabokovienne. Et je confirmerai, en effet, je ne rencontre pas d'écrivains comme on pourrait dire que certains écrivains américains, par exemple, ont eu des générations entières de filiation,
oui,
qui ne se sont jamais remis de certains grands-grands-grands-pères. Le cas de Nabokov est très, très isolé. Je pensais en peinture à quelqu'un comme Francis Bacon, qui n'a jamais eu d'émule, alors qu'il y a une admiration absolument unanime autour du travail de Francis Bacon. Il n'a jamais eu d'école, il n'a jamais fondé d'école, il n'a jamais eu de fils spirituel.
Alors c'est ça qui serait intéressant de savoir. Qu'est-ce qui, dans l'œuvre de Nabokov, fait qu'il est unique, qu'il ne peut pas avoir de successeur ? Pourquoi ?
D'abord, il était insaisissable, hein, lui-même, et cultivait cette espèce de...
Non, mais ça tient à son œuvre. Je ne parle pas de la personne, bien entendu. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'œuvre qui fait qu'elle ne va pas...
D'abord, elle est à contre-courant quand même du siècle et de l'idéologie de l'écrivain engagé. Hein. Bon, tous ces textes polémiques contre la littérature engagée, ce qui était dans le contexte des années de réception de Nabokov en France, les années 50-60, c'était pas du tout à la mode, hein, de ce genre de rapport à la littérature, de dire que tout est fiction et que la littérature n'a pas à rendre compte de la réalité sociale ou politique. C'était pas une idée très facile à relayer parmi les écrivains ou les critiques français.
Oui, certains qui n'étaient pas à la mode du temps, il haïssait le marxisme, il se moquait des syndicats, enfin, c'était pas ce qu'on appelle un bon camarade de route. Mais Lila Azam Zangané, il me semble que... Je me demande aussi si le fait qu'il n'ait pas eu de disciples... ça tient aussi à sa façon d'écrire, c'est-à-dire qu'au moment où on va le connaître en France et dans le monde, la littérature est en train de s'affranchir de ce qu'on appelle le beau style, hein, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une langue syncopée, vers une langue qui se rapproche du parler, alors que la langue de Nabokov est extrêmement sophistiquée, précise, méticuleuse, riche, proustienne par moments.
Oui, c'est sûr, il a, et puis il invente un anglais. Et souvent, je trouve, j'avais lu une interview dans la Paris Review d'un écrivain qui s'appelle Nicholson Baker, qui avait écrit sur Updike. Par exemple, Updike est un des candidats possibles. Il a un anglais qui est quand même un peu nabokovien à part certains égards, et il admirait beaucoup Nabokov. Mais Nicholson Baker disait, au fond, c'est pas du tout l'anglais d'un anglophone. Et moi, ça m'a fait rire. Je trouvais que c'était un petit peu de l'envie, parce que la chose la plus merveilleuse de cette langue anglaise, c'est qu'elle peut être travaillée comme justement du verre chaud et transformée, et qu'on peut écrire en anglais en inventant l'anglais sans pour autant que ce soit une erreur. Et ça, c'est magnifique. Et je pense que Nabokov a créé, a inventé un idiome qui lui est propre. Mais en ça, d'une certaine façon, il a aussi créé des futurs émules, bien que jamais Nabokovien à ce titre-là. Mais quand même, dans cette manière contagieuse de nous communiquer que cette langue anglaise peut être travaillée de mille manières et peut luire de mille feux. Pour moi, la chose la plus extraordinaire de l'anglais de Nabokov, c'est ce rapport à la lumière, c'est cette infinie déclinaison de la lumière que moi j'ai jamais vu. En lisant l'Odyssée, je me suis rendu compte que Homère le faisait aussi, que les vêtements par exemple de Calypso luisaient d'une certaine façon, mais le vocabulaire, le lexique et l'étendue du lexique nabokovien de la lumière est quelque chose qui dépasse infiniment, y compris celui d'Homère dans l'Odyssée. Donc moi, c'est ça qui me paraît très très contagieux en fait.
Le problème, c'est alors dans ce cas-là, excusez-moi, je reviens encore à la traduction, mais comment le traduire, c'est-à-dire cette espèce d'anglais, et comme vous le disiez justement, l'américain, je vous parlais de l'américain, c'est ce qu'il a appris, mais même s'il a beaucoup fréquenté la langue anglaise, étant tout d'une souplesse absolument incroyable, et avec une possibilité d'invention à l'intérieur même de la langue. En traduction, on traduit ça dans un français qui est assez rigide et où cette dimension d'invention d'une langue à l'intérieur d'une langue ne passe pas, parce que c'est un français, je l'ai lu en traduction, hein, je l'ai lu en français, et c'est absolument magnifique, d'une précision absolue, d'une syntaxe très exigeante, avec parfois des phrases extrêmement longue, très ornée, très ornementale, baroque, avec beaucoup d'incises, mais en même temps dans un français que l'on peut considérer comme étant tout à fait classique dans la construction, enfin sans innovation formelle. Ce qui retient du monologue intérieur, parfois, moi je relisais L'Enchanteur il y a peu de temps ce matin, plus tard que ce matin, et ce que je retiens, le monologue intérieur, c'est deux mots, ou deux petites phrases, et puis après ça repart dans une espèce de fiction extrêmement classique.
Michel ?
Oui, je crois que la lumière dont parle Lila, c'est une lumière qui est plus accessible, je dirais, à la langue anglaise et aux écrivains anglais qu'à la clarté française. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'éclat chez Nabokov. Il y a ce qui dit, d'ailleurs, dans le texte que Denis Podalydis a lu tout à l'heure, il y a cette métaphore du ray de lumière sous la porte. C'est une lumière qui filtre dans l'ombre quand même, toujours, qui est une lumière de reflet, une lumière indirecte, et c'est jamais la crue lumière de la réalité, c'est toujours...
C'est tout Nabokov d'ailleurs.
C'est tout Nabokov, et il y a cette phrase dans La vraie vie de Sébastien Knight, il dit à la fin de l'histoire, il dit « Acceptons que reste ce ray de lumière sous la porte que nous ne connaîtrons jamais ». Et dans toute son œuvre, qu'il s'agisse de ses personnages, qu'il s'agisse du rapport de ces personnages au narrateur, dans La vraie vie de Sébastien Knight, les narrateurs étant d'ailleurs souvent des écrivains eux-mêmes, au terme du roman, il y a ce non-savoir sur ce qu'est un être. Et là, dans la nouvelle Mademoiselle O, c'est bien ça, c'est qu'à la fin, il ne sait rien de ce qu'elle était vraiment, si ce n'est qu'elle souffrait. Quoi. Bon. Et ça, cette lumière saisie, je dirais, malgré les êtres, dans leurs larmes, dans leur tremblement, c'est quand même ça qui ferait l'émotion de la langue de Nabokov.
Justement,
qui voile en même temps qu'elle dévoile toujours.
Il y a, à propos de cette incertitude, il y a un très beau passage dans justement le chapitre que vous consacrez à Nabokov. sur le fait que non seulement il y a l'incertitude dans le roman, mais il y a l'incertitude aussi dans la vie de l'écrivain. Je cherche le passage, je ne le trouve plus, mais il y a, vous dites quelque part que, au fond, peut-être que... Ou alors c'est vous, Brice. Est-ce que je me trompe ? Eh oui, c'est Brice. Excusez-moi, Michel. Pardonnez-moi, j'ai avalé les trois livres, là, comme ça. Alors, c'est Brice qui dit ça.
Je dis quoi ?
Alors, page 101. Je ne sais plus qui a écrit que toute vie humaine, la tienne, la mienne, n'était peut-être qu'une série de notes en bas de page d'un vaste chef-d'œuvre obscur et inachevé. Selon cette version de la réalité, nous serions les appendices mineurs d'un grand roman inconnu dont l'auteur ne se montrerait jamais. Cet auteur invisible nous soufflerait nos répliques, déciderait de nos actes, de nos amours, de nos carrières et de nos pensées. Pour lui, tout serait clair, à moins qu'il ne soit lui-même une simple pièce rapportée dans un autre roman, plus vaste que le premier, écrit par un autre auteur, un écrivain la puissance 2, lequel pourrait être à son tour la notule d'un troisième. C'est cette espèce d'ouverture, d'inachèvement, quoi. C'est intéressant, non, à rapprocher de durée de lumière qui va durer.
On est dans le post-scriptum, toujours, c'est-à-dire effectivement le repentir, ce qu'on ajoute, la note de bas de page. Mais je crois que Nabokov emploie cette métaphore, que nos vies sont des notes de bas de page dans un texte que nous ignorons.
C'est très, très possible. Hein. Moi, je ne fais plus la différence entre ce que j'ai pris à Nabokov et ce que j'ai écrit. Ouais. Bon.
Alors, mais il a une image très belle pour définir le romancier. Il dit que c'est comme une Alice, une immortal Alice in the real world, une Alice immortelle qui tomberait comme ça dans cette grotte et qu'elle elle verrait ses notes en fait sur les parois et comme footnotes. Il parle justement de ces notes de bas de page dans la conscience. C'est une image qui est magnifique.
Alors, avant d'arriver à parler de chacun de vos trois livres, de chacun de vos livres respectifs, quand même la question qui se pose, pourquoi vous, Lila Azam, pourquoi cette passion pour Nabokov ? Pourquoi vous et pourquoi lui ? Comment est-ce que vous êtes tombée dans le chaudron Nabokov ?
Mais je pense qu'au départ, et c'est quelque chose dont je n'ai pas voulu parler dans le livre, parce que je pense qu'on risque toujours à parler trop de soi-même, on risque quelque chose qui est très anti-nabokovien et qui est justement le kitsch et l'excès de personnel en fait. Et donc c'est pour ça que mon narrateur très rapidement devient un menteur et commence à inventer toutes sortes de choses. Mais évidemment en amont il y a le rapport à l'exil, puisque je viens aussi d'une famille d'exilés. Il y a la nostalgie très forte de mes parents pour leur pays natal, qui ressemblait d'ailleurs à cette Russie natale, puisqu'ils viennent du nord de l'Iran, qui était un pays très boisé. Et puis par ailleurs cette vie entre les langues, j'ai dû grandir entre les langues en ayant l'impression qu'aucune vraiment ne m'appartenait. Et de façon très fréquente, je m'entends parler français, qui est la seule langue, je pense, que je parle avec un accent à peu près correct, c'est-à-dire sans une mélodie qui me vient comme une petite contagion d'une autre langue. Et en fait, je m'entends parler français, je suis étonnée que mon français soit le français d'une française. Mais cette chose, c'est presque du unheimlich. Vous savez, c'est cette chose, c'était très étrange. On est comme étranger à soi-même, en fait. Et on s'entend tout le temps.
Là, ce que vous placez au premier plan de votre amour pour Nabokov, c'est lui, il s'intitule « Je suis un russe tricolore ». Il est de tout pays, il a plusieurs langues. Et c'est ça qui vous touche chez lui.
C'est exactement, je pense, que Nabokov a une façon d'habiter ces langues différentes. Et c'est pour ça, par exemple, que j'adore, et je pense que cet amour pour le texte de Dada ou l'Ardeur, c'est en partie ça. Voilà un écrivain qui habite, qui existe entre les langues et qui a force. On avait parlé, je pense, c'est dans une avant-hier, c'était dans l'intervention de Michael Wood, de cette façon, une fois qu'il a traduit Lolita en russe, ça change son propre rapport à l'anglais. Et ça, c'est extraordinaire. Le fait que finalement, on n'appartient jamais complètement à une langue, mais que nos rapports et nos façons d'être et même de faire l'amour à une langue changent le rapport que nous avons en nous entretenant aux autres langues. Et Nabokov n'est pas non plus seulement d'une façon absolument monogame que dans d'une seule langue et ne la pratique jamais de la même manière, mais en fait continue la pratique des différentes langues et des nouvelles traductions, continue de transformer son rapport à la langue anglaise. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne connais aucun autre écrivain qui soit de cette manière-là, qui habite les espaces linguistiques.
Dans votre livre, Lila Azam Zangané, l'enchanteur, Nabokov et le bonheur, il y a des approches, un peu vous nous racontez un épisode de sa vie, et puis après il y a des épisodes fantasmés, vous le rencontrez lui, vous lui parlez, il y a des résurgences, d'épisodes de son existence que vous retrouvez ou pas, on ne sait pas trop bien, mais la note, moi ce qui m'a absolument frappée dans ces 300 pages, c'est qu'à chaque fois c'est le Nabokov solaire que vous cherchez, celui qui était pris de la beauté, celui qui était perdument amoureux de sa cousine Ada, de cet instant merveilleux où c'est la première émotion, et ça va être la grande affaire de toute son existence, ce ravissement du premier amour, le Nabokov follement amoureux de la nature, de la beauté des papillons, des brins d'herbe, de tout ce qui devrait pas intéresser un garçon de 12-15 ans. C'est toujours un Nabokov qui, malgré les vicissitudes de l'exil, parce que quand même, ils vont à un moment donné tout perdre, leur domaine, leur argent, le père va être assassiné quand il arrive en France. Et chaque fois, vous posez chez Nabokov cette exigence du bonheur. Dans ce livre, vous dites, il veut être heureux, il a décidé d'être heureux, et c'est ce qu'il entreprendra de faire toute sa vie. C'est ce Nabokov-là que vous mettez en lumière.
C'est ce Nabokov, c'est évidemment un parti pris et je pense que moi-même, c'est un parti pris très personnel et parce que c'est le Nabokov qui m'attire et qui m'admire et d'une certaine façon, c'est le Nabokov que je me suis inventé. Je pense qu'on s'invente toujours les artistes ou les écrivains avec lesquels on a les rapports les plus intimes. Mais pourtant, y compris dans les moments les plus sombres, les plus douloureux de Lolita ou des pages d'Ada, par exemple le suicide de Lucette, encore une fois, le rapport à la lumière et à la beauté, quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que pour moi, c'est exactement ce que vous disiez sur le style, le rapport de Nabokov au style, à la beauté et à cette autre dimension est quelque chose de tout à fait rare, y compris chez les écrivains du XXe siècle. Et juste simplement pour répondre à votre question sur le français, je trouve que la traduction de Nabokov, de Ada en français est très belle. Et on a vu ce matin des phrases magnifiques en français aussi. Moi, je trouve que c'est assez réussi, justement. Je suis assez enchantée par ça.
Ah oui, moi, je ne critique pas du tout les traductions de Nabokov en français. Je dis simplement qu'il y a cette dimension d'écrire à l'intérieur de la langue qui est peut-être un peu perdue dans la traduction française, c'est tout. Je trouve magnifique. Alors moi, je dirais juste, pour répondre à la question de Paulin, il y a une courte phrase dans L'Enchanteur qui me revenait en tête, c'était essayer d'aboutir au simulacre momentané de l'impossible. Et je dirais que c'est une espèce de course perdue d'avance avec cette jeune fille, puisque dans L'Enchanteur, personne n'a de nom, avec cette jeune, qui n'est pas encore une nymphette d'ailleurs, mais qui est juste une jeune fille, et il y a cette idée d'impossible. Et curieusement, je trouve que c'est un impossible qui rejoint d'une certaine manière la quête de l'impossible que Bataille a pu avoir durant toute sa vie, dans tous ses textes, et quelque chose qui est perdu d'avance, mais qui est la seule raison de vivre, en tout cas du narrateur de L'Enchanteur, comme de Humbert Humbert. Et qui est une espèce de course vers la mort, enfin vers la destruction.
Parce que vous, Brice, vous pensez que l'écriture de Lolita, par exemple, a généré beaucoup de souffrance chez Nabokov ?
Ah non, je dis pas ça. Je dis simplement que je crois souvent on est pris, le lecteur est pris en étau chez Nabokov, et c'est une position totalement intenable pour le lecteur entre une écriture follement virtuose et une sensibilité totalement invraisemblable au premier émoi, au ravissement, des choses comme ça, et en même temps un sordide de ce qui est décrit, qui est quand même assez fabuleux, assez faramineux. Donc L'Enchanteur, c'est évidemment le séducteur qui va réussir à... Il ne va pas le réussir d'ailleurs à enchanter cette petite nymphette dans L'Enchanteur, mais c'est évidemment surtout l'écrivain. Ça va de soi. On ne peut que tomber sous le charme. Et dès les premiers mots, dès les premières lignes d'un roman de Nabokov, moi, c'est une espèce de jouissance de lecture qui est inégalée. Enfin, on ne peut pas comparer. On ne va pas faire des comparaisons ni des classements, mais il y a une véritable jouissance, une intensité jouissive de lecture qui fait que chez Nabokov, que je ne retrouve pas ailleurs, ou que je retrouve sous des formes différentes.
Je voudrais avoir votre sentiment, Michel, et vous, Lila, sur ce que vient de dire Brice, savoir d'un côté la jouissance de l'écriture, comme chez tous les écrivains, et d'autre part, ce texte-là, donc, qui met en scène un vieux libidineux, obsédé et autodestructeur. Est-ce que vous pensez que Nabokov souffre au premier degré de mettre en scène ces situations triviales, ou au contraire, est-ce qu'il n'en tire pas une jouissance d'autant plus grande que c'est lui qui manipule tout ?
Nabokov, il a la jouissance de l'acteur, il a la jouissance du masque, et du masque sur le masque, et du déguisement. Je ne pense pas qu'on puisse parler de bonheur d'écriture. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la jouissance, et de la jouissance qu'on éprouve à faire jouir les autres, mais aussi à les faire jouir dans une certaine souffrance, parce qu'il malmène et ses personnages, et son lecteur, avec une extrême cruauté. Vous disiez, bon, comment Nabokov est entré dans votre vie ? Moi, je pense que c'est quelqu'un que je n'aurais pas aimé rencontré, contrairement à Lila qui le rencontre dans son livre, c'est pas quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. J'aurais craint de trouver un personnage extrêmement cruel, destructeur. Quand on épingle les papillons, on a un rapport quand même à la vie qui est assez singulier. On fixe la vie dans quelque chose de...
Il avait d'autres techniques aussi. Le rhum et le sucre sur des troncs d'arbres.
Oui.
C'est peut-être pire.
Moi, Nabokov, mon rapport avec lui est très étrange, puisque il n'aimait pas tout ce qui a constitué ma vie, tout ce que j'ai aimé, le marxisme, la psychanalyse, la musique. Il avait des haines littéraires, Corneille, Racine, un certain nombre d'autres.
Sartre,
bon.
Freud.
Oui, c'est quelqu'un qui est probablement l'écrivain le plus intelligent du siècle passé, avec ou après Proust. Mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais aimé le rencontrer. J'aurais adoré rencontrer Flaubert, qui était un bon camarade et un homme bon, foncièrement bon. Nabokov, je ne crois pas. Bon, mais peu importe.
Alors, comment est-il entré dans votre vie ?
Il est entré dans ma vie par cette espèce de magie, l'enchanteur, la capacité à égarer. L'enchanteur, c'est quand même quelqu'un qui emmène les gens à l'abîme, hein, dans les contes aussi. Il y a quelque chose d'un détournement du lecteur de ses certitudes, et il le laisse en plan, comme à la fin de la méprise, par exemple. On ne sait pas si cet écrivain est le criminel, ou si être écrivain est forcément criminel. Je pense qu'il y a probablement ça à creuser chez Nabokov, c'est ce thème de l'écrivain comme étant une mauvaise action quand il écrit. Et pas seulement quand il écrit des choses sordides ou sur des sujets comme Lolita, qui sont difficiles. Mais ce qu'on fait à nos personnages et ce qu'on fait aux gens qui les ont inspirés est quand même de l'ordre du crime parfait.
Brice Mathieu-Sang, comment est-ce que Nabokov est entré dans votre vie ?
Alors, il est rentré... Alors, en fait, j'en sais plus rien, parce que les premières lectures, je ne sais pas, mais je pense que il y a quelque chose qui est commun. Je relisais ça dans la fameuse interview de Bernard Pivot. Et il explique « dépaysé partout et toujours ». C'est un sentiment que je partage.
Oui.
Voilà.
Et puis ?
C'est un sentiment que je partage parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir de heimlich, de foyer, de chez moi. Je n'ai pas ce sentiment-là. Dans toutes les circonstances de ma vie, d'ailleurs. Et je pense que le seul foyer, la seule chose où l'on se sente enfin de retour chez soi, c'est la littérature. Voilà, enfin de retour chez soi, c'est là. Mais c'est pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que alors, évidemment, je ne vais pas me comparer avec Nabokov, ça serait absolument stupide, mais c'est un sentiment que je partage.
Oui. Voilà. Mais vous savez, votre réponse ne me satisfait pas du tout.
Ah bon.
D'abord parce que les écrivains qui ne se sentaient chez eux nulle part, malheureusement, le XXe siècle en a été fécond. Hein, ils sont, moi, tous les grands écrivains ont été déplacés géographiquement, historiquement. Et puis tout le monde, même Lila Azam, même Michel Schneider, personne n'a écrit Vengeance du traducteur. qui est un roman assez cinglé, je dirais, dans son entreprise, dans son ambition. Je vais simplement décrire la topographie de ce livre.
Je vais le montrer même, peut-être.
Oui, et vous allez me raconter l'histoire, qui est absolument irracontable d'ailleurs. Alors, c'est La vengeance du traducteur, c'est un livre qui est constitué uniquement de notes du traducteur, de bas de page, notes de bas de page. Et vous avez la moitié de la page qui est blanche, c'est le texte donc de l'auteur que nous ne lirons jamais. Hein, qui est blanc, et ce sont donc les commentaires du traducteur. Un traducteur, en l'occurrence, qui considère que l'auteur est son ennemi absolu. Lui-même est un être assez pervers, le traducteur, un apostat, un délicat, un rancunier.
Bavard.
Un bavard aussi, et d'abord qui se sent lésé, qui se sent méprisé, qui se sent humilié par cet auteur qui lui impose quelquefois des phrases ineptes, en réclamant en plus une précision, comme si c'était du marbre. Et petit à petit, le traducteur se sent même devenir plus créatif que l'auteur, d'une certaine manière, et il va rencontrer l'auteur du livre qui est en train de traduire. Or, le livre qui est en train de traduire est lui-même un livre qui s'appelle « Vengeance du traducteur ». C'est un traducteur qui traduit le livre d'un auteur. Hein? Donc, c'est un système d'emboîtement.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et bon, alors, développer.
Mon idée, c'était de... Je me suis souvent posé la question en quoi un traducteur pourrait être romanesque, un personnage de roman. Je me disais que cette personne qui est, comme disait Flaubert à propos de la littérature, présent partout, visible nulle part.
Comme Dieu.
C'est exactement le traducteur. Oui. Présent partout et sans arrêt, partout invisible aussi. Mais présent partout puisque c'est son texte. Donc il y a cette ambiguïté, cette ambivalence entre de qui est le texte finalement. C'est le texte évidemment de l'auteur avant tout, l'éditeur se charge de le lui rappeler, les critiques littéraires se chargent de le lui rappeler, mais en même temps il a le sentiment extrêmement fort que c'est son texte. D'ailleurs les lapsus abondent dans ma bouche ou dans les bouches des traducteurs qui parlent de leur livre, qui parlent de etc. Bon, qui se prennent vraiment pour l'auteur. Et je me suis dit qu'est-ce qui peut se passer si tout d'un coup je mets en scène un traducteur. Je dis mettre en scène parce que c'est un espace théâtral, l'espace de la page est comme une scène de théâtre. Je mets en scène un traducteur qui fait tout le contraire de ce que le traducteur fait dans son travail courant, c'est-à-dire les exigences de fidélité, les exigences de rigueur, les exigences de toute cette déontologie qui est en place. Et si c'était systématiquement bafoué, donc transgressé, et la première chose que fait donc ce traducteur, c'est d'éliminer purement et simplement le texte de l'auteur. Mais parfois, il signale en note de bas de page ce qu'il a éliminé. Donc, on retrouve le texte de l'auteur.
C'est une honnêteté qui va lui faire assez vite défaut, d'ailleurs.
Oui, après, il va prendre beaucoup plus de liberté. Donc, il supprime des chapitres entiers, il rajoute des chapitres entiers. Il donne ses propres commentaires sur le livre qu'il est en train de traduire en disant à quel point c'est désolant et qu'il est vraiment obligé de faire ça pour gagner sa vie, mais qu'évidemment, c'est aussi une attitude autodestructrice puisque l'éditeur ne l'acceptera jamais. Et en fin de compte, l'éditeur l'accepte, mais comme étant le roman du traducteur.
Oui.
C'est exactement ce que je fais, d'ailleurs.
Ce serait une fin heureuse, mais en fait, il y a une vengeance du traducteur. Et d'ailleurs, il y a un retournement. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on rencontre dans votre roman, et dans Lolita. Le roman que vous êtes en train de traduire, Lolita, les personnages de Nabokov, une atmosphère nabokovienne en diable. Donc, je ne sais pas si c'est un roman à la gloire et à l'admiration de Nabokov, mais on peut se dire, en tout cas, c'est le roman d'un fou. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne sais pas si vous vouliez...
Je ne savais pas.
C'est un roman qui fait penser à...
J'avais Michel.
Qui fait penser à une...
De toute urgence.
À une espèce de catharsis d'un fou qui se met à écrire. Pardonnez-moi de vous dire ça.
Oui.
C'est la réussite de ce livre.
Oui.
Hein.
Bon.
En quoi la vengeance du traducteur est-elle différente de la vengeance de l'auteur? Parce que l'auteur aussi, par rapport au livre... Enfin, Proust dit ça, l'auteur est traducteur de sa propre vie. Il est dans une traduction de ses personnages, de son histoire propre. Là aussi, il ajoute des chapitres, il en supprime d'autres. Il y a une vengeance dans l'acte même de romancer, vengeance par rapport à la vie. Il y a se refaire une vie au dépens des autres et au dépens de la vie qu'on a menée. Donc il y a là aussi une dimension de vengeance. Peut-être que votre traducteur est une métaphore de l'auteur qu'il rêverait d'être.
Mais il le devient d'ailleurs à la fin. Il devient l'auteur de ce livre qui s'intitule Vengeance du traducteur.
Mais si je peux le dire, parce que je pense que Brice est modeste, il y a une trouvaille quand même de romancier très très drôle. C'est que d'abord, la vengeance du traducteur, d'une part, c'est qu'il va effectivement rencontrer l'auteur du roman, interférer dans sa vie, ils vont avoir la même maîtresse. Bref, on ne sait plus ce qui est histoire de papier et ce qui est réalité. Mais il a non seulement ce traducteur a le pouvoir de faire disparaître des pans entiers du roman, des personnages, quand ils ne lui plaisent plus, mais il a aussi la possibilité de modifier le décor de la vie réelle de l'auteur. Par exemple, s'il décide que l'auteur, tout d'un coup, n'aura plus un tableau précieux accroché au mur ou à une croûte, le tableau précieux va disparaître à la grande douleur de la personne réelle. Voilà, donc il a une espèce de pouvoir de substitution, hein, et, enfin de mise en fiction partout, quoi.
Oui, c'est ça, c'est un peu les prérogatives de l'art sur la nature, sur la réalité. C'est-à-dire, comme disait Oscar Wilde, ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais c'est l'inverse. C'est la nature qui imite l'art, bien sûr. Et ça, j'en fais tout ce que je peux, j'en tire tout ce que j'ai pu en tirer dans ce livre. En tout
cas. Alors, c'est un livre, Vengeance du traducteur, vraiment d'éloges et d'inspiration nabokovienne, dans les labyrinthes, les poupées russes, les méprises, le doute qu'on a sur personnage, mais c'est aussi un livre célinien, parce que c'est un livre qui éructe beaucoup, Brice. Alors, vous en avez vraiment beaucoup après les auteurs que vous avez traduits.
Il m'est arrivé une anecdote avec un auteur. Je traduisais, pour un éditeur, je devais traduire un livre qui se passait à Londres. L'auteur habitait Paris et il voulait que je traduise son livre en adaptant tous les événements dans une géographie et un contexte culturel parisien. Donc cet auteur n'avait absolument pas compris ce qu'était traduire. Il pensait absolument réécrire, réadapter entièrement, changer. C'est comme si vous vouliez traduire Madame Bovary, je ne sais pas, à Marseille en 2013. Ça change beaucoup de choses. Ou si la traduction, on pourrait imaginer même de manière un petit peu borgésienne, que la traduction, une culture ou un univers où la traduction consiste à transformer tous les éléments du texte d'origine dans un monde totalement différent à chaque fois. Et il s'ensuit des acrimonies extrêmement rudes, extrêmement pénibles pour tout le monde, entre le traducteur, là je parle du traducteur de mon roman, mais j'ai vécu cette expérience aussi, donc entre le traducteur de mon roman et l'auteur. Et ça va assez loin, ça va jusqu'à la tentative de meurtre d'ailleurs. Donc un texte, le travail qui se fait autour d'un texte peut aboutir à des tentatives de meurtre, évidemment pas réelles, puisque tout ça est un livre, est enfermé dans les couvertures d'un livre, mais qu'on peut tout à fait imaginer.
Michel Schneider, je vais d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous vous êtes amusé, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, à imaginer des morts imaginaires de grands écrivains. Pourquoi cet intérêt pour la mort ?
Non, je suis parti, l'intérêt sur la mort, je pense que la littérature n'a pas grand-chose d'autre à dire que le rapport de chacun de nous à la mort.
Enfin. Là, vous nous emmenez au chevet des écrivains, quoi.
Oui, ben, enfin, il n'y a pas de livre plus noir que Lolita. C'est quand même un livre sur la mélancolie, la mort, la perte. Pourquoi ? Parce que je suis parti de l'idée, qu'est-ce que c'est que les derniers mots ? Les derniers mots qu'on prête à des hommes célèbres, et en particulier à des écrivains, qui sont tous apocryphes. Et qu'est-ce que c'est que pour un écrivain qui a fait sa vie avec des mots, qu'est-ce que c'est que cette perte du langage que signe la mort, au moment où on devient son nom propre et on n'a plus de mots. Alors j'ai effectivement parcouru de Montaigne jusqu'à Truman Capote et de 36 morts d'écrivains en décalquant le titre de Marcel Schwob, Les vies imaginaires, pour montrer que de toute façon, dans la mort elle-même, il y a une scénographie, pas forcément inventée par uniquement les survivants et l'entourage, mais inventée par l'auteur lui-même, et que C'est assez comique. Enfin, il y a une manière de rire, comme le titre de Nabokov, Laughter in the Dark, bon, rire dans le noir. Il y a quelque chose d'assez comique quand on sait que Chateaubriand, à qui on prête la phrase qui est la dernière des Mémoires d'Outre-Tombe, je rentrerai dans mon tombeau le livre à la main, il a dit « Ah, les petits cochons ». C'est ça la réalité historique. Bon, et moi j'aime bien ce côté, c'est pas du tout un livre morbide, c'est un livre sur cette dérision que la mort imprime à nos vies.
Et quelle était la dernière phrase de Nabokov ?
Je ne sais pas.
Nabokov, il a Dimitri raconte qu'au moment de mourir,
son fils, qu'il a
expiré de façon très fort, trois fois, et presque de façon opératique. Ce qui était là aussi peut-être, c'était étonnant puisque Dimitri était chanteur d'opéra et son père n'aimait pas l'opéra. Mais c'était, je pense qu'il le raconte dans un texte. Où il se remémore.
Donc il n'y a pas eu de dernière phrase célèbre.
Il y a rarement des vraies dernières
phrases.
Alors
je pensais que ce serait très intéressant votre rencontre, Michel, avec Lila, parce que autant le Nabokov de Lila est solaire, poétique, est un éternel enfant en fin de compte, vous nous expliquez dans ce chapitre que la mort hante tous les romans de Nabokov, que la plupart du temps ce sont des écrivains qu'il met en scène et que tous connaissent une fin tragique. Mais que tous meurent d'une certaine manière. Et vous nous peignez un Nabokov hanté par l'achèvement de l'existence, par le morbide, tout le contraire de Lila.
Oui, en plus, moi, je ne pense pas du tout que Nabokov était un homme cruel. Non, mais... Je ne pense pas du tout que ce soit de l'idéalisation, parce qu'au contraire, je pense qu'il faut beaucoup d'irrévérence pour écrire un livre sur un écrivain qu'on adore. Oui. Il y a certains aspects de Nabokov qui m'agacent. Je ne suis pas d'accord avec certains de ses goûts littéraires. Il n'aimait pas les écrivains femmes. Enfin, il a évidemment des défauts. Il y a certains de ses livres, on en parlait hier soir avec quelques amis, que je n'aime pas du tout. Mais je suis persuadée, je sais qu'il a cette réputation imaginaire d'avoir sans doute été un homme cruel. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que disait son fils. Et même les quelques personnes qui ont laissé des témoignages, elles étaient nombreuses, des éditeurs qui ont travaillé avec lui, qui allaient lui rendre visite. Par exemple, dans les dernières années de sa vie au Montre-Palace, parlait d'un homme très très tendre. Et moi, je suis persuadée que c'était quelqu'un de tendre et de pas de cruel. Même son personnage public, arrogant, ses goûts littéraires affichés, etc. C'était aussi un personnage inventé de la fin de sa carrière. D'une certaine façon.
Non, mais chacun de nous a son Nabokov. Moi, les grands romans que je privilégie, c'est La Défense Lougine, La Vraie Vie de Sébastien Knight. Qui est en fait La Fausse Mort de Sébastien Knight, qui est un livre complètement à l'envers et qui ne parle que des erreurs, des quiproquos dans les derniers instants où il se trompe, de même que son personnage, Sébastien Knight, qui est un écrivain, se trompe de chambre et quand il cherche à voir sa mère à la fin de sa vie et qui va dans une autre ville qui s'appelle aussi Roquebrune, de même Sébastien Knight lui-même, quand son frère vient à sa recherche et le trouve dans une chambre, il veille toute la nuit un homme qui n'est pas son frère et qui est alors que son frère est déjà mort. Moi, c'est ce genre de jeu où le destin se joue des personnages qui est évidemment poussé à la virtuosité chez Nabokov avec toutes ces erreurs. Ces notes de bas de page qui n'expliquent rien et qui, au contraire, contredisent ce qu'on a cru comprendre de la vie de quelqu'un.
Pour vous, il y a une hantise de la mort, donc une forme de dépression, de mélancolie.
Non, je pense que c'était un homme qui était effectivement plein de vie, c'est un personnage, c'est un des personnages les plus tragiques de l'histoire de la littérature.
Non. Moi, je trouve que c'est un personnage extraordinaire.
Bien sûr.
Tellement amusant, érudit, malin, manipulé, manipulateur. C'est un personnage magnifique, tellement complexe.
Bien sûr.
C'est pas un pauvre type. Lui, il se décrit comme un pauvre type.
Il se décrit comme un...
Mais je sais pas, c'est un sommet. C'est le héros négatif formidable, parfait, quoi.
Bien sûr.
Moi, je pense à La Méprise, par exemple. Ce monsieur, c'est un monsieur, un petit monsieur, qui a une usine de chocolat, si ma mémoire est bonne.
C'est ça, Hermann.
Hermann, voilà. Et c'est un pauvre... Il y a quelque chose chez les personnages de Nabokov, ils ont des problèmes de vue, ils ont des problèmes de vision en permanence, ils se trompent en permanence, ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir, et ce qui crève les yeux de tout le monde, c'est d'ailleurs c'est l'histoire de la méprise, et ce gars-là, le vagabond, ne lui ressemble absolument pas. Et donc c'est une projection, c'est exactement comme Imbert avec Lolita, c'est ce sur quoi insiste beaucoup Nabokov dans ses entretiens, c'est une projection, c'est une nymphète dans le regard de Imbert. Donc c'est vraiment une histoire de grande névrose.
D'autant plus qu'on en parlait avec Lila précédemment, et c'est vrai qu'il y a nombre de ces livres, il n'y a pas simplement L'Enchanteur, il y a Machinka, il y a Lolita, il y en a d'autres où il y a des nymphètes, et donc toute sa vie elle a été hantée par l'histoire d'un homme, de la convoitise d'un vieil homme pour une toute jeune fille, et on en parlait avec Lila, il est resté marié toute sa vie avec la même femme. Quoi.
Et il lui a dédié tous ses livres.
Il lui a dédié tous ses livres.
Hein ? Oui.
Bon, mais pour en revenir à votre livre, Michel Schneider, parlons donc de la mort et de l'écriture. Vous écrivez, les écrivains ne cherchent pas toujours l'immortalité par leurs livres. C'est ça la phrase importante. Sans un rapport extrême avec cet extrême où s'abolissent les paroles et la vie, on écrit peut-être, mais on n'est pas écrivain. Est-ce que vous voulez dire que si on n'écrit pas sur la mort, le certificat de littérature absolue, on écrit mais on n'est pas écrivain?
Et sûr, ça ne veut pas dire prendre ça comme
ou à propos,
la mort
d'Ivan Illich,
c'est à propos, autour d'eux, à partir d'eux, et à partir de la mort, on peut aussi bâtir des livres sur la vie, la jeunesse, l'ardeur, Ada ou l'ardeur, bien sûr, mais je crois que c'est quand même c'est le teint du miroir sur lequel on se regarde, la mort.
C'est François Nourricier qui disait la mort, le seul certificat d'authenticité de la littérature. Vous êtes d'accord, Brice? En tant qu'écrivain et en tant que traducteur.
Je ne sais pas, mais quand on regarde les livres les plus importants, moi je pensais beaucoup à Madame Bovary, même à propos de Lolita, c'est flagrant comment Flaubert... part d'un tout petit fait divers et finalement en fait ce livre absolument extraordinaire. Il y a la mort qui est vraiment annoncée dès le début. Je pense qu'on n'a pas parlé de Faulkner, qui est vraiment aux antipodes de Nabokov. La mort est sans cesse présente. En effet, même historiquement, enfin, et culturellement, je pense que c'est quand même un des grands objets de la littérature, oui. Je pense que la littérature doit s'affronter à ça, oui.
Lila, est-ce qu'un roman comme Ada ou l'ardeur n'est pas justement, je ne sais pas, si c'est une tentative de figer le temps, de le rattraper et de le fossiliser en quelque sorte dans un roman, c'est encore s'inscrire dans quelque chose qui a un rapport avec la morbidité, la peur de la mort, ou si c'est au contraire une espèce de propulsion dans le domaine du rêve, de l'enchantement, du jeu qui ne finit jamais. Mais on peut dire par exemple que Ada ou l'ardeur, Nabokov reconstitue sur 500 ou 600 pages un monde idyllique où on retrouve dans l'Amérique la Russie de son enfance, un monde idyllique où il va tomber amoureux de sa cousine, comme probablement il l'a été dans sa Russie natale. Et c'est un monde absolument transplanté, où il y a des vicissitudes pour les héros. Mais en quelque part, c'est un monde de contes de fées. Alors quand on écrit Ada, un monde de contes de fées, est-ce qu'on n'est pas plutôt porté à chanter une espèce d'hymne éternel à la vie? Merci d'être né, merci de m'avoir fait homme, merci de m'avoir donné la possibilité d'écrire, merci de m'avoir appris à apprécier la beauté, les femmes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je trouve que Ada, d'abord, est pour moi un grand traité, au fond, sur le bonheur, sur cet émerveillement à être au monde, une sorte de gratitude. Il y a cette phrase magnifique dans Autre rivage où il dit, je ne la connais pas en français, mais il dit « a thrill of gratitude to whom it may concern ». Hein, il parle à Dieu d'une certaine façon, ou à la nature en tout cas, « to whom it may concern ». Et je pense que le roman, cette vision nabokovienne, elle est habituée aussi par ça, par l'émerveillement, par l'observation, par cette gratitude qui dans Ada effectivement prend ses formes d'un conte de fées qui est cruel évidemment à certains égards, mais qui est l'apothéose de cette vision là. Mais ce qui est intéressant chez Ada, c'est que le paradis, même dans Ada, le paradis est toujours un paradis perdu, et finalement le paradis absolu a été manqué aussi. Donc il y a toujours toujours aussi, même alors que par l'intermédiaire de la conscience, à un moment donné, Van a 94 ans, je pense, il est dans un hamac et il se souvient de son enfance et il dit que c'est comme une capsule de conscience. Hein, et il trouve une sorte de formule magnifique où il parle à travers la mémoire et par le truchement de l'amour, il comprend ce que c'est, il comprend ce que c'est cette espèce de temps qui est un non-temps. Et puis, pour revenir sur la mort, je voulais dire aussi que Nabokov a cette phrase très belle où il dit « Regardez le monde à travers les yeux of the transparency of death and ardent beauty », je crois. Donc, il y a toujours cette relation à la mort, pour moi, qui n'est pas une relation comme la mort, la finalité ultime, mais justement pour cet acte de piété, de pitié. « Pity is the password » m'a toujours semblé « pity ». J'ai toujours eu l'impression qu'il avait utilisé ce mot-là parce que d'une certaine façon, ça sonnait juste, mais peut-être qu'un autre mot eût été plus juste. En tout cas, il y a ce rapport-là de compassion par rapport à la finitude des choses et qui accroît cette beauté ardente du monde. Et la dernière chose que je voulais dire et qui m'intéresse chez Nabokov, et je voulais intervenir hier au moment d'une des interventions du colloque, qui parlait du fait que la vie était systématiquement fictionalisée et que donc on prenait à la vie, je pense que c'était dans l'intervention de Leland, et il y a ce passage magnifique dans Speak Memory que j'ai relu 100 fois parce que je ne suis pas sûre de le comprendre complètement, mais à un moment donné il parle des soirs où il faisait l'amour avec Tamara ou Lucia dans son domaine dans le domaine de son oncle, et il dit mais je vais m'arrêter là, il dit je me souviens du bruit de la pluie, je me souviens des bruits des lime trees sous la pluie, de l'humidité et de creek heaving and creaking, mais je vais m'arrêter là parce que on ne peut pas tout dire, finalement, on va laisser cette part justement de vie qui va échapper au mot. Et il dit « One hopes that something should escape captivity in the zoo of words ». C'est très étonnant pour un écrivain qui croyait fondamentalement au pouvoir du langage. Et ça, c'est une chose aussi qui résiste. Alors, il y a une part justement de mystère, d'indicible, qui est aussi une part d'enchantement, mais qui reste dans une autre forme d'obscurité, justement.
Qu'est-ce qu'il veut répondre, Michel?
Est-ce qu'un psychanalyste n'appellerait pas ça le réel?
C'est-à-dire l'indicible, ce qu'on
résiste au langage.
Résiste au langage, oui. Oui.
Il y a un très beau passage dans votre livre, Michel, à propos donc de la mort imaginaire de Nabokov. La mort. Vous voulez le lire vous-même ou je le lis?
Vous voulez, oui.
D'accord.
Il a donc, souligné.
La mort d'un écrivain a jusqu'à écrire, c'est avoir la mort au bout de la langue. Vous voyez comme je suis directive. Hein.
La mort d'un écrivain, d'un être de mots à l'extrémité de son être et de ses mots, retranché dans ses retranchements, en quoi diffère-t-elle d'une mort ordinaire? De quoi nous parle-t-elle? Par-delà leur mystère, attachant ou ténébreux, le dégoût qu'ils inspirent, mais aussi la gratitude envers eux qui vous disent, lecture après lecture, que vous n'êtes pas seul à être seul, la fin des écrivains nous parle du réel, de ce qui est au-delà des mots, hors du sens. Être écrivain, c'est se demander ce que le langage peut dire de la mort. Mais qu'est-ce que la mort nous dit du langage? La mort est la sanction de tout ce que relate le narrateur, écrit Walter Benjamin en 1936. Pour celui qui écrit, lorsqu'avec les mots vient à manquer la matière de sa vie, et ce qui donnait à son être le peu de réalité qu'il lui trouvait parfois, alors revient ce vide agaçant quand on cherche un mot qui vous échappe. Écrire, c'est avoir la mort au bout de la langue. Voilà.
Alors, réaction.
Très beau, moi je trouve ça très beau.
Et juste, beau, d'accord.
Non, je trouve ça très beau. Écrire, c'est avoir la mort au bout de la langue.
Moi, je m'insurge, je ne suis pas du tout d'accord. Trop tard, affreux. Enfin, c'est très bien écrit, mais c'est une idée effroyable. Moi, évidemment, je crois tout le contraire. Je crois qu'on écrit pour dire la vie et je suis absolument aux antipodes de cette idée-là. Et c'est pour ça que j'écris le livre que j'ai écrit, d'une certaine manière, en lisant les romans qu'on aime, on parle évidemment, hélas peut-être, mais on parle aussi de soi-même. Donc ce qui m'intéresse de lumière chez Nabokov, c'est la lumière que je recherche toujours moi-même. Et je pense qu'on écrit pour capter cette chose-là. Et j'adore l'idée, Nabokov disait aussi, tous les grands romans sont des grands contes de fées. Et il disait même que la première moitié de l'œuvre de Proust, c'était « The first half of Proust's fairy tale ». Il parlait de la recherche comme d'un conte de fées. Et en écrivant mon deuxième livre, qui est un premier roman, au début, j'ai essayé de mettre Nabokov au placard en me disant « un roman nabokovien, quelle catastrophe !» Et bien sûr, c'est impossible d'écrire un roman nabokovien. Mais je me suis rendu compte que je m'étais trompée et qu'en mettant Nabokov au placard, je mettais aussi au placard cette dimension d'extase. Et il parle, il a cette définition magnifique de l'art dans la postface de Lolita, où il dit « l'art, c'est tenderness, gentleness, kindness, tenderness, curiosity, ecstasy. » Et je pense que cette dimension-là, au fond, c'est ça qui m'intéresse. Et quand il dit, il fait la différence entre trois sortes d'écrivains, the teachers, the storytellers and the enchanters, c'est ça dont il parle, cette dimension d'extase dans le langage, cette dimension qui, au fond, crée un univers complètement unique, complètement merveilleux, et qui doit nous transporter dans une sorte de ravissement qui n'exclut pas l'ombre au tableau, la cruauté, la mort, mais qui, au fond, qui se surpasse dans ce geste de ravissement qui est tout tendu vers la beauté, vers le mystère des choses. Et c'est ce Nabokov-là qui me parle.
Il y a peut-être des questions dans la salle, mais je voudrais poser une dernière question à mes camarades. Michel Schneider, vous dites que Kafka disait l'important c'est de mourir content. Hein, l'important c'est de mourir content. C'est étonnant que ce soit Kafka qui dit ça, mais bon, vous le citez, donc moi je vous crois. Est-ce que Vladimir Nabokov est mort content, Lila ?
Je pense qu'il n'était pas du tout content de mourir. Ça a été très difficile, je pense, les derniers mois, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que ça a été pour le grand écrivain de la conscience qu'il a été. Ça a été des mois très pénibles. Et je pense qu'il y a encore une fois un texte de Dimitri où il raconte les derniers jours ou les derniers mois. Et il disait qu'il avait entendu parler que Nabokov, avant de mourir, avait demandé, je pense, quel mois il était. Je réimagine sans doute un petit peu. Et qu'il savait, il parlait, ah oui, voici le mois de tel papillon, et qu'il avait senti dans son regard, Dimitri le raconte, qu'il savait qu'il n'irait jamais plus à la chasse de ce papillon-là. Et donc je pense qu'il y a dans cet amour immense de la vie, cette gratitude, cette reconnaissance, cette fascination par rapport à la conscience, évidemment comment ne pas avoir la nostalgie immense de cet adieu. Et pourtant je pense qu'ils pensaient tous les deux avec une immense pudeur qu'il y avait quelque chose de l'autre côté du voile de la vie. Alors rien de, il dit lui-même, ce n'est ni un pèlerinage ni un gaudy paradise des gens, voilà, d'une religion donnée. Mais enfin, il y a une sorte de grande pudeur, d'un mysticisme très pudique chez Nabokov. Et donc, je pense qu'il est parti sans doute avec l'espoir, effectivement, qu'une forme de conscience, comme il nous le laisse entendre dans une grande partie de son œuvre, se continuer par-delà le voile de la vie. Donc.
Mais Michel, dans l'esprit de Kafka, mourir content, non pas être content de mourir,
non, mais, voilà,
mais
c'est
mourir
ça.
Content de la vie qu'on a eue, de l'œuvre qu'on a faite peut-être.
Oui, de l'œuvre qu'on a faite et de son inachèvement et du fait qu'on n'en est jamais content, qu'on n'a jamais eu son content de mots, de silence aussi. C'est peut-être ça que Kafka veut dire. C'est pas évidemment je suis content de mourir, moi non plus je serais pas très content de mourir, mais je pense que je mourrais plus content si j'ai fait encore deux ou trois livres qui ont dit quelque chose que j'avais encore à dire sur le bout des lèvres, mais bon c'est pas donné.
Brice Mathieu-Saint, on peut penser que Nabokov est mort content, parce qu'au fond je ne sais pas, je me pose la question. J'ai l'impression que c'est un auteur qui s'appréciait beaucoup lui-même.
À juste titre.
Il aurait eu tort de ne pas le faire.
C'est-à-dire qu'il était très fier de son œuvre. Il n'avait pas.
Oui.
Est-ce que je me trompe ?
Mais mourir content, je ne sais pas. Je pensais à Dora Diamant, forcément, oui. Pour Kafka.
Oui.
Évidemment qu'il était content, enfin.
Il avait trouvé une femme qui le contentait.
Il y a un livre qui vient de sortir, d'ailleurs, je crois, un roman sur cette dernière période de la vie de Kafka. Oui.
Mais je ne pense pas que Nabokov ait été fier de son œuvre, au sens où on l'imagine encore. Je pense qu'on a vraiment recréé par la suite, probablement en partie en raison de ses interventions diverses et variées dans les années 70, quand il aimait taper sur d'autres écrivains. Mais je ne l'imagine pas comme ça. Je l'imagine... Je ne sais pas, je l'imagine, oui, ayant créé cette œuvre. Et quand même, je pense que quand on a créé une œuvre de cette qualité, dans une part de sa conscience, on sait ce que vaut cette œuvre. Mais ce n'est pas forcément une fierté bête, ou en tout cas...
Non, mais il y a quand même une certaine assurance de lui-même. Par exemple, dans Autre Rivage, il y a ce passage formidable. Il décrit l'immigration en France, tous ces grands écrivains russes immigrés, dont Bounine et d'autres. Il consacre quelques lignes à leur œuvre. À un moment donné, il dit, mais l'auteur que le plus remarquable et celui qui m'intéressait le plus, c'est Cyrine. Et pendant 3 pages, il va faire l'éloge de Cyrine, qui n'est autre que lui-même, puisqu'il signait Cyrine dans ses pseudonymes. Donc, voilà. Mais en même temps, peut-être qu'il joue aussi avec ça. Hein.
Mais oui, bien sûr, il a beaucoup joué. Toute l'œuvre est toujours pleine de Vivian Darkblooms, de 4, 2, 3, qui sont son vrai faux anniversaire.
Ne vous inquiétez pas, on l'adore, de toute façon. On l'adore. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Brice, à Lila ou à Michel ? Michel qui doit nous quitter d'ailleurs parce qu'il a un train à prendre. Donc la première question, s'il y en a une, sera pour Michel. Non ? Pas de questions ? Bon. Alors, très bien. Et alors, donc, simplement. Oui.
Histoire de, voilà, de poser une première question, c'est très rapide, elle s'adresse à Brice Mathieu Sang. Je n'ai pas compris, mais j'ai peut-être mal entendu ou mal compris, le rapprochement que vous faites, ou le parallèle, ou la connexion que vous faites, disons, entre Bataille et Nabokov. Pour moi, ce sont deux auteurs totalement opposés.
Oui, je suis tout à fait d'accord, ça tombe sous le sens. Mais cette phrase concernant l'impossible... me semblait pouvoir faire juste un rapprochement comme ça, qui n'a sans doute, à mon avis, jamais été fait d'ailleurs. Enfin, j'ai jamais rien lu autour de Bataille. J'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose là qui fait, qui est un moteur d'écriture et un point fixe, une espèce d'horizon de l'écriture. Voilà.
Merci. Lila, j'étais tout à fait intéressée par ce que vous disiez sur votre intérêt pour le multilinguisme de Nabokov, puisque c'est le sujet qui m'intéresse et je crois qu'on est beaucoup de polyglottes ici, donc ça nous intéresse. Et vous parliez notamment de du fait que vous vous entendez en français, parler sans accent, mais peut-être différemment dans d'autres langues. J'imagine que vous devez lire Nabokov en VO, mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de lire un même texte dans plusieurs langues ? Est-ce que ça vous a provoquer quelque chose au niveau de l'identité, où vous avez senti un autre Nabokov, une autre Lila, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Bah, hélas, la jeune femme qui est un écrivain extraordinaire, qui a traduit mon livre en français, puisque je l'ai écrit en anglais, est partie, donc j'aurais beaucoup aimé qu'elle vous parle de ça, mais oui, je pense qu'il y a plusieurs choses, lire Nabokov en différentes langues. Hélas, j'étudie le russe depuis 12 ans, mais je ne parle pas très bien russe encore, il faudrait que je vive quelques mois en Russie, et je peux lire aider de quelqu'un ou d'un très gros dictionnaire, donc je peux pas vraiment dire avec une oreille très juste. Mais effectivement, rien que le passage, je pense que nous tous, on peut lire Nabokov et en anglais et en français, bien sûr que c'est déjà deux personnes différentes. Et évidemment, étant polyglotte, je pense qu'on change de personnalité en fonction de la langue, y compris en fonction de l'accent. Quand on a plusieurs accents dans une langue, ça c'est très bizarre aussi. Et on habite constamment, en fait, les confins d'une langue ou les interstices. Et on finit par habiter une langue presque imaginaire. On habite souvent sans le savoir à notre insu, des langues imaginaires, des langues qu'on fabrique. Donc j'aime beaucoup lire, même Nabokov en traduction, j'aime beaucoup la traduction de Ada, par exemple en français, que je trouve très belle et très étonnante. Et bien sûr, le français est une langue du 17e, c'est une langue classique, c'est une langue très différente, qui est beaucoup plus réglée, je pense, que l'anglais. Mais c'est intéressant de voir comment cette verve, cet éclat nabokovien rentre et pénètre à l'intérieur de cette structure, de cette robe comme ça, de haute couture française. Donc voilà, et nous-mêmes, je pense qu'entre les langues, c'est la même chose, et c'est très curieux pour moi et infiniment intéressant d'analyser ce phénomène-là, de continuer à apprendre d'autres langues, toujours dans cet espoir complètement fou et impossible de me fondre dans la culture de l'autre, vu que même en France, hélas, je ne suis pas considérée française. Voilà.
Bien, alors je vous remercie d'avoir participé à cette rencontre.
Donc je vous rappelle vraiment, il faut les lire, les trois livres de nos invités, Mort imaginaire de Michel Schneider en folio, Vengeance du traducteur, c'est le roman de Brice Mathieu-San paru chez POL. Vous l'aviez publié en 2007, si je ne me trompe, c'est ça ? 2009, hein, parce qu'il est mort en 77. Ça aurait été 30 ans exactement après la mort de Nabokov. Et enfin, le merveilleux livre de Lila Azam-Zanganeh, L'Enchanteur, Nabokov et le Bonheur, aux éditions de l'Olivier. Merci. Bonsoir.
Merci beaucoup.
Merci Paula Jacques. Merci à tous nos invités. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver certaines de ces tables rondes et de ces rencontres sur le site web de la BPI, bpi.fr. Et je tiens encore une fois à remercier Agnès Edelroy, Lara Delage. Pardon. Bah, viens là.
Lara Delage de Riel.
Voilà, pour vraiment.
Monica Manolescu et Yannick.
Exactement, pour cette co-organisation de manifestation. Merci.
Excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Je vous demanderai de rester juste deux petites minutes. Je peux ? Au nom de tout le monde, de tous ceux qui sont dans la salle, de tous ceux qui ont participé à ce colloque, de tous ceux qui ont été dans l'aventure jeudi, vendredi, samedi, nous voudrions remercier très chaleureusement toutes les organisatrices pour leur investissement, le temps passé, leur sourire, leur diplomatie, leur patience. Et je suppose que vous avez remarqué que pendant tout ce colloque, vous aviez un joli papillon français qui vous regardait. Et s'il vous regarde, c'est grâce à notre directrice artistique, Alexandra, que nous voudrions très chaleureusement remercier également. Peut-être qu'il faudrait une traduction en anglais.
We would like to thank once again our wonderful organizers and remind you not only that they put a lot of energy and time and many months of work into this wonderful event, but also that if those two eyes have been staring at us for the whole symposium, it's thanks to Alexandra, who designed among many things, who designed this wonderful poster. So thank you again.
И все-таки последнее слово по-русски, потому что мы никогда не поблагодарили по-русски, так что спасибо.
Pour ceux qui, merci beaucoup évidemment, merci. Je crois qu'on est toutes très touchées. Je voulais juste dire, je ne veux pas vous prendre plus de temps, simplement pour ceux qui vont au banquet ce soir, je vous rappelle, c'est à 20h30, 23 ou 24, je ne sais plus, rue de la Grande Truanderie. C'est dans le même quartier que le centre Pompidou. Voilà, si jamais vous ne savez pas où c'est, j'ai un plan, je pourrais vous montrer. Voilà, et demain, pour ceux qui veulent, il y a une promenade sur les traces du Paris de Nabokov à partir de 10h. Voilà.